Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, j'espère que tu es en pleine forme. Je suis Lia, je suis en direct avec toi depuis l'odeur du son et quel plaisir. On discute aujourd'hui à résilience, introspection, mais pas que. Avant ça, surtout, c'est les 5 actus qui donnent le smile. Des ostréiculteurs sauvent un dauphin et son petit dans la baie de Cancale. Pour dépolluer la pêche, une entreprise française installe une voile géante de kitesurf pour tracter des navires. Le Costa Rica interdit la chasse sportive et aux trophées pour protéger la faune sauvage. La maladie de Charcot voit l'espoir d'un traitement grâce à la découverte d'une de ses causes par des chercheurs. Merci pour l'info, Joe. C'est le moment maintenant d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Laurie Valdener, artiste vosgien qui transforme le béton en poésie visuelle. Ancien enseignant devenu virtuose du street art, tu fais vibrer les murs de nos villes au rythme de la culture hip-hop et de fresques monumentales chargées d'histoire et de résilience. Bonjour Laurie, comment ça va ?
Bonjour, ça va bien, merci.
Quelle actu as-tu préférée sur celle que je viens de citer ?
L'actu sur la maladie de Charcot.
Important ça.
Voilà, on a vu encore un acteur connu passer de l'autre côté ouais. Et voilà, on aimerait bien éradiquer cette maladie une fois pour toutes.
Alors tu es déjà venu dans nos studios il y a quelques années, ça me fait très plaisir de te revoir aujourd'hui. Tu es dans le cocon confortable aujourd'hui de l'odeur du son et justement c'est ma première question Laurie, est-ce que le son a une odeur pour toi ?
Est-ce que le son a une odeur ? Je dirais que oui, puisque le son peut transmettre aussi une forme de poésie qu'on retrouve dans une odeur.
La petite Madeleine de Proust, tu sais, quand t'écoutes quelque chose et que ça te rappelle un souvenir.
Voilà, ça
te le fait, ça ?
Ça me le fait. Aller dans des endroits et sentir une odeur et se ramener... Et revenir immédiatement dans un souvenir qui a des années, qui est relatif à l'enfance ou à l'adolescence, c'est souvent ce qui m'arrive moi. En retournant au lycée André Malraux à l'occasion des parents profs, j'ai retrouvé mon adolescence en une fraction de seconde.
Ah bah tu m'étonnes. Alors si moi je devais te présenter, te décrire Laurie, je dirais que tu es un paradoxe en mouvement, un créateur insatiable et insaisissable, un hyperactif en introspection qui transforme l'urgence de vivre en une patience de créer. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Alors pour le coup, je suis assez d'accord.
Ok, voilà. Bon ça va, je me suis rattrapée.
Au niveau hyperactif et au niveau passionné dans tout ce que je fais, notamment la peinture, et c'est propre à tous les projets que je mène, les uns après les autres, toujours guidés par la passion et sans limite, jusqu'à ce qu'un mur m'arrête et que je passe à une autre passion, et ainsi de suite, pour goûter à des petits échantillons de vie, comme être le comédien de plein de films, en fait.
Et qu'est-ce qui t'arrête, justement ? Il se manifeste comment, ces murs ? À quel moment tu te dis « Ok, là, c'est bon ?»
Alors, par plusieurs effets. Le premier, c'est la lassitude. Donc, j'ai une propension à me lasser assez vite. Mes projets ne durent jamais plus de 2 ans en général, qu'ils réussissent ou non. Une fois que j'ai atteint un espèce de plafond de verre, un plafond invisible dans mon esprit, c'est pas pour être le meilleur, c'est juste que j'ai atteint ce que je voulais avant de passer à autre chose. Et puis aussi, il y a le facteur psychologique, parce que comme tu l'as mentionné, j'ai une invasion d'idées dans la tête constante qui fourmille dans mon esprit et qui a besoin de sortir et qui parfois s'avère invasif. Empêche de dormir, on peut parler de santé mentale à ce niveau-là quand un projet devient tellement intense et puissant qu'il prend le pas sur le quotidien.
Okay.
Donc quand j'atteins ce stade-là, ce qui m'arrive quasiment à chaque projet, eh ben, il est l'heure pour moi de mettre celui-là de côté et de recommencer quelque chose de zéro.
Okay.
Pour regoûter à cette espèce de passion quoi, invisible qui nous guide, qui nous fait vivre. Moi, j'ai besoin de ça, de me lancer de nouveaux projets tout le temps.
Mais comment tu arrives à dépasser l'obsession ? Parce qu'en général, quand ça nous arrive, c'est plutôt le contraire. Tu vois, on peut se laisser happer dans ce tourbillon-là. Mais toi, tu te dis non, là, c'est trop obsessionnel, il faut que je passe à autre chose.
En fait, quand je le sais, c'est déjà trop tard.
Ouais.
Et ça altère même la quête que je me suis lancée. Sur le coup, je vois pas, je fabrique, je fais, je fonce. Et puis, à un moment où, heureusement que j'ai des proches, heureusement que j'ai un certain recul, une sensibilité qui me permet de me mettre en sécurité et de me dire bon, ce projet-là, il a atteint ses limites. S'il devient anxiogène, je passe à un autre. Parce que toute chose qui n'est pas cadrée, au bout d'un moment, finit dans un mur. Quoi.
Alors, sans vouloir mettre de cases, maintenant, c'est très démocratisé de parler justement de neuroatypie. Est-ce que toi, tu te retrouves là-dedans un petit peu TDAH, neuroatypique, dans toute cette façon que ton cerveau a de fonctionner ?
Je pense que on est tous différents les uns des autres. On aime tous se démarquer. Hein. C'est pour ça qu'on donne des prénoms différents à nos enfants, différents de ceux de nos parents, et ainsi de suite. Je pense avoir été très tôt plutôt différente. J'ai un prénom déjà différent des autres, Laurie, qui est un prénom assez rare. Mais au-delà de ça, je pense avoir une sensibilité longtemps dissimulée parce que... dans nos sociétés à nous, on essaie tous d'incarner quelque chose. Mmh. Et j'ai laissé ces vannes s'ouvrir seulement depuis une dizaine d'années, hein, c'est-à-dire le côté productif de moi-même. Avant ça, j'ai été éducateur. Après, j'ai une vie très atypique. Hein. J'ai vécu en Australie, j'ai vécu au Maroc pendant presque une dizaine d'années.
Oui.
J'ai une vie déjà pas normale. Donc forcément, parler de TDAH, c'est des termes modernes. Je parlerai de sensibilité accrue à certaines choses, c'est sûr.
Moi, je trouve ça beau d'en parler, même si franchement, j'aime pas du tout coller des étiquettes ou mettre les gens dans des cases, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, on est tous différents et ça représente rien finalement, à part trouver parfois quelques solutions si on en a besoin. Mais je suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Vivons qui nous sommes, ça sera déjà très bien. Mais je trouve que c'est bien d'entendre des gens, qui ont conscience qu'ils sont différents et tu vois qui exacerbent ce côté-là et qui vivent en fait de leur créativité. Moi, je trouve que c'est un beau message. Donc toi, si tu devais te présenter avec tes propres mots à toi, parce que moi, je t'ai présenté au début, mais toi, tu le dirais comment du coup ? Qui es-tu ?
Alors, déjà, je suis un Vosgien.
Ouais.
Je suis un pur Romarimontain depuis beaucoup de générations. Hein. Val-de-Nerre, je pense que j'ai ma place dans les Vosges, comme je le dis souvent. Et alors, j'ai 42 ans. 17 dans ma tête, sûrement, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup.
25 visuellement.
Voilà. Né en 84, mais arrêté en 2004. Voilà. Syndrome de Peter Pan qui est propre à notre génération aussi, puisqu'on est les milléniums et on est entre les deux. Donc c'est difficile de trouver notre place dans ce monde moderne avec l'éducation de nos parents.
Ouais.
Donc, alors moi, je suis un pur millénium. Hein, l'éducation de papa et maman à l'ancienne, avec la technologie de nos jours. On essaie de faire un pont, parce que j'ai 4 enfants, dont des grands-enfants. Et j'ai eu une vie un peu étrange, comme je disais, dès les débuts. Hein. J'étais étudiant d'échange en Australie à 16 ans, puis je suis reparti là-bas après le bac. Après, j'ai essayé d'avoir une vie plutôt rangée, plutôt normale, malgré le fait que j'étais professeur au Maroc et que j'ai fait tout le tour du Maroc en vivant là-bas hein, pendant pas mal d'années. Et comme je disais, le moment créatif, on va dire qu'on accomplit les choses à 40 ans. Et un temps pour tout. Et un peu avant ça, j'ai commencé à peindre au parking des Brasseries. Je suis un autodidacte en tout. Hein. Oui. J'ai un problème d'autorité. Je supporte pas qu'on me donne des conseils, malgré que je les englobe quand même quand on me les donne. Et je suis un autodidacte. Donc la peinture, c'était le tout départ de ce grand projet-là, on va dire.
On va en parler tout au long de cette émission. Comment tu as rencontré justement la peinture ? Tu dis que tu es autodidacte, mais à quel moment tu t'es dit ça, je vais essayer.
Moi, j'ai toujours aimé dessiner, hein, comme beaucoup en cours, on dessinait des Dragon Ball Z dans le coin de nos pages.
Des diddles.
Voilà. On a tous essayé plus ou moins de faire quelque chose.
Oui.
Ça marchait pour certains, d'autres non. J'ai toujours eu des bonnes notes, on va dire, dans ce qui est artistique. J'ai fait du piano depuis tout petit. Ouais. Donc en musique, au collège et en dessin, j'avais les notes maximales.
Okay.
Bon, après, ça ne veut rien dire, hein, puisque l'art, c'est subjectif.
Ouais.
Et j'ai laissé ça en suspens pendant des années. Jusqu'à ce fameux jour où je sais pas, j'ai eu une attirance, je me suis garé au parking des Brasseries de Remiremont, ce que j'ai déjà dit beaucoup de fois, mais j'ai vu tous ces murs blancs et je me suis dit c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait fait quelque chose de beau là-dessus.
Ouais.
Et puis j'avais des pastels de mes enfants dans ma boîte à gants.
Excellent.
Et c'était le déclic. J'ai fait la grotte de Lascaux. Et puis l'adrénaline de faire quelque chose d'interdit parce que je suis quelqu'un d'intègre.
Mmh.
Alors c'était pas grand-chose, j'ai pas volé. J'ai pas volé un téléphone ou quelque chose, mais c'était quand même interdit de peindre sur un mur. Donc je l'ai fait, j'ai ressenti cette adrénaline-là. Et puis l'envie dès le lendemain de recommencer quoi. Et d'affiner la technique au fur et à mesure. Pour ceux qui ont suivi le développement du pastel que j'avais fait en graffiti sur les murs, c'était de voir le développement de mon coup de crayon, bien sûr, puisque on avance, on évolue. Jusqu'à la fameuse peinture et puis l'autorisation de la mairie de peindre directement sur ces murs-là.
Mmh. On va en parler encore de ça. On va se racler la gorge tous les deux déjà pendant ce premier disque chouchou de cette émission avec l'artiste russe. En fait, je crois que c'est un collectif, Bazlab. Est-ce que tu connais ?
Je ne connais pas, non.
Non, tu ne connais pas. Alors, je ne sais pas si l'info... J'ai essayé de vérifier l'info, mais apparemment, ils se seraient fait incarcérer en Russie parce qu'ils auraient chanté dans la rue, fait de la musique dans la rue, des musiques non acceptées par le gouvernement russe. En tout cas, moi, c'est mon gros coup de cœur du moment. On écoute ça tout de suite avec un titre que je ne peux absolument pas prononcer.
Lola, des belles, я не вышел из тьмы, я в ней научился стоять. Где слова дешевеют, я выбрал молчать. Мой шаг не быстрый, но он не назад. Жизнь не любит шума, она любит вес. Я видел, как правду меняют на шанс. Как братство сгорает за теплый аванс. Я остался нечистый, но свой. Ночь проверяет не страх, а стержень. Кто ты, когда никто не держит? I don't shine, I stay in the dark. I keep it low, I keep my mark. No crown, no deal, no borrow. Name dark, reggae, move, but they cook the same. Я не клянусь, я просто живу. Мой выбор видно, потому что не беру. Когда все вокруг просит согнуться, я медленно дышу и не двигаюсь. Мне не нужен свет, который слепит. Я иду там, где видно, кто ты есть, без вывески. Громкие правы до первой тени, тихие держат до последней. Oh, no, don't say, don't scream, don't beg. I walk with the weight in my chest and my legs. Bass go low, heart go slow. Dark reggae soul, but the spine stay whole. Если завтра меня спросят, кто ты, я не буду отвечать, пусть скажет мой путь. I'm not in the dark, no need to prove. I don't chase light, I choose my mood. No flame burn, no smoke, no show. Dark reggae life and I stand slow. Не герой, не легенда. Не герой, не легенда. Просто человек, который живет по совести.
Lab sur les ondes de Radio Guimouzo, artiste que j'ai découverte il y a peu sur les réseaux sociaux, comme quoi il y a du bon dans les réseaux sociaux, ne luttons pas. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Ouais, j'ai aimé, ouais, c'était pas mal.
T'as le droit de dire non. Hein.
Non, c'était pas mal.
C'est quoi le premier son ou la première odeur qui te vient quand je te dis street art?
Oula, si c'est mon cas, l'odeur de béton, après ça fait cliché ou peut-être... L'odeur de pierre mouillée, si on parle des Vosges, parce qu'il pleut beaucoup. Et parce que j'ai passé beaucoup de temps dans ces endroits-là, humides, qui sentent la pierre, qui sentent la vase un petit peu.
Ouais. C'est pas le truc le plus agréable, mais c'est pas grave.
Non, après, ça fait partie du décor. Hein,
Tout à fait. Alors, Laurie, quand ton nom est évoqué, on pense maintenant immédiatement, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon avis subjectif, à la fresque monumentale de 40 mètres carrés dédiée à Frida Kahlo, rue du Canton à Remiremont, que je vous invite à aller voir si vous n'êtes pas encore tombé dessus, parce qu'on peut quand même difficilement la manquer. Un hommage vibrant à la résilience féminine qui pourrait entrer en résonance directe avec l'histoire des chanoinesses de la ville. Est-ce que tu y as pensé, ça, ou pas du tout?
Alors, oui, ça faisait partie d'un... Alors, Frida Kahlo, je l'ai peinte... Maintes fois, je l'ai peinte sur des armoires, sur des fresques au parking, avant celle-ci. Hein. Mm. Et donc, du coup, on en parlait avec monsieur le maire parce qu'on avait le désir de changer ce mur-là, qui était un peu une tâche sur le quartier, hein, qui était souvent tagué, qui était, comme il est à côté d'un collège, il était souvent maltraité. Et du coup, on réfléchissait à la meilleure manière de le mettre en valeur. Mm. Donc, on avait pensé à Jeanne d'Arc, bien sûr, puisqu'il y a le lycée Jeanne d'Arc.
Ouais.
Après, ça pouvait paraître un peu guerrier et puis un peu
politique.
Il avait peur que ça amène plus de mal que de bien. Et puis, la figure de Jeanne d'Arc, elle est difficile à enlever du côté guerrier, bûcher peut-être.
Conflictuel.
Donc, il m'a dit, à moins de l'adoucir, il nous faudrait de toute manière une image de femme. C'était son désir. Pour mettre en valeur justement la cité des femmes, la cité des chanoinesses et toute l'histoire de Remiremont.
C'est génial.
Et beaucoup de gens, alors pas forcément beaucoup, mais des gens ont critiqué le fait que ce soit pas une figure emblématique de Remiremont qui a été mis en valeur pour cette première fresque, puisqu'on est censé en faire une série. Une série de fresques sur façade à l'honneur des femmes. Alors oui, c'était pas un visage connu de Remiremont, mais le décorum de Frida, son histoire, sa résilience féminine, son féminisme, et puis son talent aussi, puisque c'est quand même une peintre reconnue.
Mais oui.
Elle a une histoire avec des espions russes. Mmh. Elle a une histoire de roman. Elle est romancée et elle a une histoire de roman. Son nom même résonne. Donc pour nous, c'était logique de la mettre en valeur en premier. Et vive à la Bida, vraiment, vive la vie, qui est un mantra que chaque automobiliste peut voir et puis se le rappeler, parce que qu'on se le dise ou pas, quand on voit quelque chose comme ça, on l'interprète intérieurement peut-être, on fait sa route et vive la vie, quoi. Donc voilà, c'était le choix du maire, un très bon choix, judicieux, et qui m'a permis moi aussi de mettre en valeur Frida, puisque j'ai demandé à pouvoir la faire comme moi je voulais. Et pas copier bêtement. Alors, elle n'est pas... Forcément, c'est une interprétation. C'est pas un modèle photographique de Frida Kahlo. C'est mon interprétation à moi. Et voilà, elle restera à moi dans cet état-là jusqu'à la fin.
Éternellement. Ah ouais. Pourquoi tu aimes autant la peindre ? La représenter ?
Les couleurs. Ouais. Ma couleur préférée, c'est le turquoise.
OK.
Je pensais mon passé en Australie, où j'habitais sur la barrière de corail. Le turquoise se retrouve dans toutes mes peintures quasiment. Et Frida Kahlo, en général, on la peint avec du turquoise, avec des couleurs vives, des perroquets, des fleurs. Je veux dire, c'est quand même une belle femme, dans le sens où elle met en valeur toute peinture. Peu importe comment on la peint, si on suit un petit peu ses codes, eh bien, la peinture sera belle, quoi qu'il en soit.
Ça, c'est vrai, ça. À quel point ça résonne en toi, en fait, quand tu la peins, mis à part les couleurs ? Est-ce que son histoire te porte quelque part ?
Alors, son histoire, oui, et puis son courage. C'est une femme qui a vécu beaucoup de malheurs. Et j'ai voulu mettre ça dans ma peinture. Alors, il y a des peintures qui ont réussi du premier coup, d'autres où on s'acharne sur un morceau et ça ne vient jamais. Frida, je l'ai peint sur une nacelle en discutant avec les gens, qui étaient bienveillants et c'était un vrai plaisir.
C'est génial.
Alors, sur une nacelle, en plein soleil, en plein mois d'août, avec peu d'occasion de se tromper parce que tout le monde regarde. Et étonnamment, elle est sortie exactement comme je voulais. C'est-à-dire une force dans le regard, une dureté mêlée à un petit sourire en coin qui nous dit que elle est heureuse d'avoir accompli ce qu'elle a accompli. Je voulais lui donner tout ce caractère-là. Hein. C'était pas involontaire de ma part. Alors, je voulais pas qu'elle louche, c'est déjà bien. Et puis, elle est sortie comme je le voulais. Alors, à charge aux autres d'aimer ou pas, hein, bien sûr, c'est mon interprétation d'artiste sur cette personne-là. Il y aura des défauts, forcément. Mais quand je monte, c'est ma Frida. Voilà. Et ma fille dit, c'est ta Frida.
Ah, c'est beau.
Voilà. Et quand je monte, des fois, je passe par là exprès pour la regarder. Je suis rarement satisfait de mes œuvres. Hein, en tant qu'artiste, on l'est tous. On trouve toujours des défauts à dire. Mais Frida, malgré ses défauts, je ne la toucherai pas. Je l'aime comme elle est. Donc j'espère que transmettre le même amour aux autres. Mais voilà, je l'ai fait pour moi, celle-ci.
Est-ce qu'un jour tu feras Camille Claudel ? C'est dans les tuyaux ou pas ?
Alors, je ne peux pas révéler ce qui est encore ou ce qui n'est pas. Puisqu'on
pas d'exclusivité.
Voilà. C'est pas de mon ressort, malheureusement. Et puis, on a eu beaucoup de propositions parce que les gens se sont dit, moi, j'ai une façade avec un pignon qui n'est pas beau. Autant le mettre en valeur. Et du coup, on a beaucoup de propositions de femmes qui ont marqué, marqué Remiremont. On pense aussi à Chantal Goya. On pense à d'autres.
Oui.
Et puis, c'est un projet qu'on a à cœur de faire là pour l'année qui va passer.
Ouais.
Avec d'autres artistes, bien sûr.
C'est trop bien.
Il n'y aura pas que Laurie.
Est-ce que tu penses que le street art s'est enfin démocratisé pour que des municipalités fassent appel à des artistes, quoi ?
Je pense que Banksy, pour ceux qui le connaissent, qui est un peintre, c'est plus un muraliste au pochoir qui est ultra connu aujourd'hui, il a démocratisé ça. Le problème pour être ce genre d'artiste, c'est qu'on n'a pas le droit de peindre sur les murs, mais pour être connu, il faut peindre sur les murs. Donc en fait, il faut un peu créer sa chance et prendre des risques sans faire n'importe quoi, bien sûr. Dégrader, je ne suis vraiment pas pour.
Ouais.
Et je dis souvent aux gens, si on est un vandale, autant faire du beau vandalisme, quelque chose qui mette en valeur une maison ou une bâtisse, et de préférence pas chez des particuliers, puisque ça ne leur appartient pas. Donc le problème du street art, c'est que on est conditionné par le fait que ça soit aimé par la municipalité.
Ouais.
Quelqu'un pourrait faire un trait et dire c'est de l'art, et on ne pourrait pas lui enlever ça, puisque c'est son art. Après, on ne peut pas permettre à tout le monde de s'exprimer de cette manière-là, ouais, malheureusement.
Ouais. Mais le street art, ça a quand même une histoire un peu chargée de révolte. Hein. Voilà, c'était un petit peu une façon pour les artistes de dire qu'ils existaient à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a encore un bout de pirate en toi ?
Je pense qu'il n'y a que du pirate. Même. C'est-à-dire que je suis obligé de conjuguer avec des codes dans la peinture. On ne fait pas ce qu'on veut, mais l'adrénaline, la vraie, tout le monde le sait, c'est dans le fait de peindre quelque chose qui va être vu et sans que personne ne sache que c'est nous. Ouais. En fait, l'anonymat est encore plus jouissif dans ce cadre-là parce qu'on entend ce que les gens disent, les commentaires, et puis mais personne ne le sait. Et ça, c'est la vraie pudeur aussi,
ouais,
c'est-à-dire ne pas mettre son nom en valeur.
Ouais.
J'avais peur de mettre mon nom au début... Par excès de ça aussi, alors peur des critiques, hein, parce qu'on se met à nu aussi. Hein.
C'est vrai.
Et aussi derrière, une certaine humilité de pas chercher la gloire, mais chercher à créer quelque chose, à renverser la table. Voilà, il y a un mur, le mur des brasseries qui servait à rien, qui était tout blanc. Et ben on va en faire une galerie d'art.
C'est génial. En même temps, si t'ont vu peindre, c'est un peu foutu pour l'anonymat, quoi. Bon, parce que maintenant, on te reconnaît quand même.
Maintenant, oui, parce que j'ai eu cette autorisation. Donc, ça participe au fait que je puisse connaître mes corps légionnaires aussi, les gens de Remiremont qui aiment parler et qui aiment l'art aussi. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens.
Ça, mais c'est vrai
qu'au début, c'était anonyme.
Ouais.
Je signais avec un L.
Oui.
C'était un peu Zorro, enfin, dans mon esprit, bien sûr. C'était vraiment, vraiment la belle époque.
On continue avec un autre disque chouchou. Cette fois, c'est toi qui l'as choisi. Ici, c'est mi-discussion, mi-playlist. Laurie, tu nous as sorti un son de Usher. Alors, il me semble que tu étais prof d'anglais. Je ne vais carrément pas me lancer dans la prononciation du titre. Quel titre tu as choisi de Usher ?
You Remind Me of a Girl.
Voilà.
Yo, I ain't seen you in a minute. But I got something to tell you. Listen. See the thing about you that caught my eye is the same thing that makes me change my mind. Kinda hard to explain, but girl, I'll try. You need to sit down, this may take a while. See this girl, she sorta looks just like you. She even smiles just the way you do. So innocent she seemed, but I was fooled. I'm reminded when I look at you,
but you remind me of a girl that I once knew. See your face whenever I look at you.
Won't believe it, baby.
She put me through. This is why I just can't get it with you.
Thought that she was the one for me, till I found out she was on her creep. Ooh, she was sexing everyone but me. This is why we could never be.
You remind me of the girl that I once knew. See your face whenever I look at you. Won't believe all of the things she put me through. This is why I just can't get it.
Plongeons dans les belles années à Usher, ça, les petites Madeleines de Proust qui fait plaisir quand même, ça. Pourquoi t'as choisi ce son ?
2001, c'est l'année où je suis revenu d'Australie, donc je suis parti à 16 ans, parents, donc en famille d'accueil avec le Rotary.
Hein. Ouais, c'est vrai ça.
Et donc un an sans parler français, un an sans parents. En revenant en France, j'étais empreint de culture australienne qui était un peu en avance au niveau, c'était le streetwear à l'époque.
Ah.
Et Usher, ouais, moi je comprenais les paroles, du coup, je faisais un peu le kéké au lycée avec ça. Et puis je commençais à danser, donc c'est l'époque où l'époque hip-hop, capoeira pour moi. Ouais. L'époque, une forme d'art aussi, hein, mais l'époque danse, parce qu'il a duré quand même 5 ou 6 ans de danse.
Ouais.
Ceux de ma génération, je pense, se rappellent de moi au niveau de... Surtout grâce à la danse, parce qu'on a fait pas mal de spectacles à l'époque.
Ouais.
Alors, des battles de hip-hop et surtout la capoeira.
Trop bien. Et t'as arrêté ça ?
Non, toujours, avec mon âge, bien sûr, qui ne me permet plus de faire tout ce que je faisais avant avec mon corps, quoi, mais le hip-hop et la capoeira, on était des précurseurs, je pense, pour la ville de Remiremont.
C'est génial, ça.
À ce niveau-là, ouais.
Toi, t'es vraiment un touché-à-tout. Est-ce qu'un jour, t'as fait de la musique ?
Alors, j'ai fait du piano depuis tout petit, ce que je disais. Ouais.
Ok. Eh ben,
Peut-être que je chanterai la prochaine fois.
Tu nous sors un album au piano et puis voilà, on te recevra une nouvelle fois. On retourne dans notre sujet, il y a tellement de choses en fait à se dire, c'est pour ça que j'ai un petit peu coupé au cher, tu m'excuseras. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu commences à tracer le contour d'une fresque aussi monumentale que celle de Frida ? T'en as fait d'autres, hein, des grandes, est-ce que c'est celle-là quand même la plus grande que tu aies faite ?
C'est pas la plus grande, la plus grande elle est à Cornimont, sur le garage LS Auto, c'était une Porsche rouge.
Ouais.
C'était la première fois que je faisais c'est du monumental, hein. C'est vraiment gigantesque.
Ouais.
Ce que je me dis, c'est que ça va être énorme, que j'ai pas le droit de me trouver, et en même temps, c'est excitant, parce qu'on va de plus en plus grand, encore une fois, hein. C'est une barre d'HLM qu'on va faire, hein. Donc c'est un challenge, on passe des paliers.
Est-ce que c'est plus difficile de faire très grand ou très petit ?
Personnellement, je préfère grand.
Ouais.
Parce que je suis pas quelqu'un qui aime les détails. Je suis un peintre pressé, pressé dans la vie tout court. J'ai du mal avec le réalisme et l'hyper-réalisme. Okay. Je salue la technique de mes confrères peintres qui aiment cette technique-là. Moi, j'en suis incapable. Je suis plus dans l'impressionnisme, dans le trait, dans le. Ouais. C'est pas de l'abstrait, mais on va dire que j'ai pas la patience, moi, d'aller trop en détail. Donc, ce qui est grand et ce qui se voit de loin, ça me plaît plus.
Ouais, ouais. Puis t'as pas le temps, quoi. Trop de trucs à faire, quoi. Trop de projets en cours.
Trop de projets en cours. Non, c'est une part de ma personnalité. Hein. Je suis quelqu'un de pressé. Si vous avez le malheur de vous retrouver devant moi en voiture et que je vous klaxonne, c'est vraiment pas volontaire, hein. C'est moi qui est toujours en rush.
Ça va, t'as accepté de rester avec moi pendant une heure, j'ai de la chance. Quand t'es arrivé, tu m'as dit ça dure combien de temps ?
C'est vrai.
On avait commencé à beaucoup entendre parler de toi grâce justement à tes chefs-d'œuvre sur le mur du parking couvert des brasseries, t'en parles depuis tout à l'heure. Tu as été aussi l'invité du 20h04 chez Xavier Battistella, il me semble, à la Bresse, où justement vous aviez parlé de ce sujet, comment transformer un lieu glauque d'une ville en un musée magnifique, gratuit, inattendu.
C'était la première fois que j'évoquais toute mon aventure là-bas, hein, en faisant un peu rire les gens, parce que c'était rigolo. C'était une aventure de gamin qui a jamais peint et qui se dit, allez hop, qui s'invente une vie temporaire en se disant, allez hop, je vais transformer tout ça. Et ça a ouvert des perspectives où maintenant, dès que je croise un mur qui est qui est détérioré, je me dis, oh, je pourrais faire tel truc ou tel truc. Et en faire profiter d'autres, puisque moi, le parking des brasseries, c'était un projet en commun. J'avais demandé à pas mal d'artistes de venir avec moi pour le peindre. C'était pas pour ma gloire personnelle. Ouais. Et ça s'est pas encore fait, mais ça, c'est quelque chose que je vais mettre à l'honneur pour cette année, par exemple. Amener d'autres artistes, enlever une grande partie, puisque c'est de l'éphémère pour moi. J'aime pas que ça reste figé pendant 2-3 ans et puis les gens le regardent plus parce qu'ils sont habitués.
Ouais.
Donc on va enlever une grande partie, on va rechanger le thème et puis je vais amener d'autres personnes pour les mettre en valeur aussi et faire un projet en commun.
Au-delà de la résilience et de ton côté artiste, ce qui me frappe chez toi, c'est l'audace. En fait, tu vois, c'est oser, essayer quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore, mais on le fait quand même. En plus, c'est visible, mais tu y vas, quoi, et ça marche en plus, et ça c'est chouette. Hein.
Bah, je suis surpris, moi aussi, de me lancer dans ce genre de projet. Des fois, je me dis, mais je suis fou. Je suis un joueur de poker qui a rien dans sa manche, quoi. Je me dis, mais pourquoi je me fais du mal comme ça ? Et j'ai la chance, alors, d'avoir des prédispositions, on va dire, sur certains domaines. Voilà, en toute modestie, je ne peux pas le nier. Par exemple, dans les langues, j'ai appris plusieurs langues courantes. Je me lance dans des projets comme ça qui me sont accessibles parce que c'est dans ça que je suis bon, je pense, les projets artistiques. Donc, en fait, c'est une demi-peur. Je sais ce que je suis capable de faire en apprenant vite.
Ouais.
Et par contre, j'ai mes pères qui, par exemple, dans les Beaux-Arts, qui vont me juger en disant « il s'abroge de tous les codes, c'est pas comme ça qu'on fait, sûrement ». mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des études de beaux-arts. Ça serait sûrement mieux pour moi.
J'ai pas le temps.
Ça serait louable et je serais sûrement meilleur. Mais si je veux goûter à cette vie d'artiste rapidement et la quitter aussi rapidement, il faut que tout se fasse vite, quoi.
Ouais. T'as déjà réfléchi pourquoi t'étais aussi pressée ?
C'est ce que je disais, j'ai envie de vivre, je vais regarder un film, j'ai envie d'être cette personne-là, je vais regarder un autre film, je vais être ce héros de ce film-là, j'ai envie d'être le héros de trop de films, et il faut que je choisisse, et je vis des morceaux de films de ma vie, des 20 minutes à chaque fois, je suis quelqu'un d'autre, je suis un boxeur célèbre, après je suis, je sais pas, un couturier, et ainsi de suite, et je tente tous ces projets-là.
Ouais.
De toute manière, on va tous mourir dans quelques années, donc à quoi bon avoir peur ? À quoi bon dire, on laisse ça aux autres, et puis on garde sa frustration pour soi-même, autant jeter, et puis enfin, on ne réussit pas. Ça va faire rire les 2-3 personnes qui ne nous aiment pas, quand on a tous des haters, et puis on rebondit, et puis il y a forcément quelque chose. Vous avez un Michael Jordan, s'il n'avait pas essayé le basket, il ne serait pas devenu une légende.
Ouais.
Il serait resté à jouer au baseball, et il aurait été un joueur lambda.
Ça, c'est chouette.
Il faut tout essayer, et il y a forcément quelque chose dans lequel on est meilleur, ou simplement bon, c'est même pas pour être en compétition avec les autres. Moi, il y a tellement d'artistes que je trouve meilleurs que moi, mais c'est pour faire quelque chose pour moi, pour mon âme, pour m'élever finalement.
La vibration.
C'est ça, exactement.
C'est chouette. Ton audace, elle va se retrouver très prochainement. Tu es sur le point de créer une web-série.
C'est ça.
Voilà, dis-nous tout. Il est venu avec une exclusivité tout à l'heure dans les studios. J'ai cru que j'allais réécrire toute mon émission.
Alors... pour moi, c'est cohérent dans mon parcours, puisque c'est encore du visuel et c'est encore dans mon imagination. Donc, on a tous regardé des films quand on était petits en se disant « Ah, il est magnifique, mais j'aurais voulu telle fin. Ah, il est ci, il est ça. » Et j'avais écrit un livre dont j'étais venu parler la dernière fois qu'on s'était vu, qui s'appelle Sam Rooks, qui est toujours sur Amazon. Et j'ai toujours aimé écrire. Écrire, c'est aussi une grande passion, lire et écrire.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de peindre le décor du théâtre de Vanier. Et à ce point de vue-là, en fait, j'étais jamais entré dans un théâtre. J'étais surpris par le talent de ces comédiens. Et puis, j'ai peint le décor. Et puis, je me suis dit, mais une pièce de théâtre, ça serait magnifique. Si je pouvais écrire ça, mais c'est trop dur. Et là, le côté Laurie, je m'en foutis, s'est dit, et pourquoi ça serait trop dur ? Et puis, je me suis lancé dans l'écriture d'une pièce de théâtre qui serait dans la veine de Stranger Things, parce que c'est mon enfance. Parce que j'ai grandi avec les Goonies, j'ai grandi avec ces films des années 80 qui avaient un humour propre et qui n'étaient pas édulcorés, c'est vrai, mais qui ont marqué notre enfance à tous. Je parle des milléniums, bien sûr.
Ouais.
Et donc Stranger Things, pour moi, résonnait aussi de ces films-là d'avant qui nous faisaient peur et en même temps qui étaient une camaraderie entre enfants. Et donc j'ai écrit une pièce de théâtre. Et puis je cherchais déjà à la faire produire, puisque c'est la suite logique.
Ouais.
Et on m'a mis en contact avec un vidéaste de Nancy, qui s'appelle Stanislas Klaus, et qui est connu dans son univers, et qui a accepté de filmer ces épisodes-là, de web-série, ce serait des épisodes de 25-30 minutes, pour commencer, pour voir où on va, pour réussir. Donc là, on est en pleine création de l'association, puisqu'il faut une association cinématographique pour avoir des assurances et des autorisations.
Okay.
Donc on en est là. Ah, et le projet, c'est de faire un casting avec les enfants du coin, donc faire une grande annonce pour faire un casting, pour trouver nos acteurs de cette web-série, qui sera de l'aventure fantastique, pas de l'horreur comme Stranger Things, mais dans la même veine, avec des sorcières de Remiremont.
Trop bien.
On mettrait la ville en valeur sans l'appeler Remiremont. La ville s'appelle Valrock. C'est le titre aussi de la série.
Ok.
Et ça serait des gamins qui partent à l'aventure, qui vont chercher un trésor et qui vont faire face... Donc, aux sorcières, puisqu'on a renommé les chanoinesses, les chasseuses moinesses, qui tuaient et qui traquaient les sorcières de la ville. Parce que Remiremont était une ville de sorcellerie qui est très connue.
Oui.
On avait brûlé plus de sorcières à Remiremont et dans les Vosges que dans pas mal de régions. Oh. J'ai appris ça justement dans une conférence.
Ah ouais.
Okay. Ça m'a donné l'idée de mettre ça en valeur. Donc, filmer plusieurs sites de Remiremont. On a des beaux sites comme le Saint-Mont, le Fort du Parmont.
Oui.
Qui vont être mis en valeur aussi. Et on espère vraiment motiver des gens. Donc, si vous avez le désir de faire partie de l'aventure, on est en train de créer l'association et on a besoin de beaucoup de gens, bien sûr. On a le vidéaste, on a des accessoiristes, tout ça, mais on a toujours besoin de volontaires pour des adhérents, pour nous aider, pour maquiller, pour coacher les gamins et beaucoup d'enfants aussi. Si vous avez un enfant de 12-13 ans qui a une fibre de comédien ou de comédienne, N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour mener à bien ce projet.
Trop bien. Comment on te contacte ?
Sur mon Instagram ou sur, sur Facebook. Okay. On trouve facilement, normalement.
On mettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Est-ce que tu vas te tenter à l'acting, toi qui veux être l'acteur de tous les films que tu regardes? Alors, et de ta vie surtout.
Je suis l'acteur de ma vie. Après, voilà, j'ai quand même de l'audace pour aller sur un film. J'ai une certaine timidité, pour ceux qui me connaissent, doublée d'une folie douce quand je m'y mets. Hein. C'est tous les introvertis qui sont comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets, mais je ne ferme aucune porte de ce point de vue-là.
Ah, je suis... Tu as quand même une grosse dualité et ton audace, elle existe, à mon avis. On retrouvera Laurie sur le petit écran, mais ça n'engage que moi. On se lance dans mon prochain disque chouchou. Cette émission passe à toute vitesse avec un son de Linky pour Let It Fall. Je ne sais pas si tu connais. Tu me diras ce que tu en penses juste après. J'espère que ça te plaira.
Nutcrackers, body snatchers, and heart attackers. Mazda 3 combined, plus other adapters. I kick more flips than acrobatics. So your plastic couldn't get more drunk than my dramatics. Don't pack it, but got friends that'll let you have it. Don't start it, or else they'll have to grab it. Insane till all my pain is out my brain. A driver still remains, another MC slain. Moving the ciphers, I'm the lighter with the fire. You're purple, going in circles like those Goodyear tires. Liars and labels on the other sides of tables. When I unravel, I'll be kicking more channels than the cables. I'm ready, willing, and able to end your lifeline. Your windpipe's mine, cause I'm inclined to kick the right rhyme. So very hardcore that you hit the hard floor. I score when I do jacks, I'm lacking car doors. My rhymes the best of two minds, like double headers. I creep the streets by putting cracks in concrete, let alone the rock the underground from beneath. So sleep if you wanna, this day you'll be a goner. I wonder or ponder, at least you'll die in honor. Steam like a sauna's in my dome, out like chrome. Next time MCs are left alone inside their tombs, their rooms are blown to pieces. You'll soon be calling Jesus. Swell, melt off the microphone heaters. Readers of minds read way beyond your crime. You're a child hiding behind imaginary lines. Gave it away with your whining and your bitching. Keep it warmer than the kitchen as I commence the lynching. Cut through the tension like machetes. I'm confetti coming down on you till you're through. Then I'm jetty.
Voilà pour ce titre sur les ondes de Radio Guémozo. Est-ce que ça t'a plu ?
Ça m'a beaucoup plu.
Ah, ouf !
Ça m'a rappelé Cy Presil.
Ouais, carrément.
Les années...
Ouais, ouais. J'ai tellement pensé à ça. Allez, c'est le moment pour moi de te tirer le portrait, Laurie. Je te pose des questions, tu me réponds comme ça devient instantanément. Est-ce que c'est bon pour toi ?
C'est bon pour moi.
Si ton talent de street artiste était une texture, ça serait laquelle ?
Une texture ? Je dirais le béton.
Le béton ?
Ouais. Parce que j'ai frotté mes mains sur le béton du parking des brasseries plus que de raison. Et au point où vraiment attraper une espèce de corne dessus, ouais. Pour ceux qui m'ont vu faire par tous les temps dans ce parking.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment le texture, c'est le béton. Pour moi, c'est là où j'ai le plus peint.
Ok. Est-ce que tu as récupéré la texture de tes mains ?
À peu près, ouais.
Ok, cool. Si ton hyperactivité était un objet, ça serait lequel ?
La toupie.
La toupie ? Ok. Pourquoi ? Parce que ça tourne, parce ça ne s'arrête jamais, ça part dans tous les sens.
Exactement.
Ok. Si ta patience d'artiste était un bruit ?
Ça serait peut-être un chant. Parce que j'aime chanter moi-même,
ouais.
Comme mais tout le monde sous la douche.
Je t'ai dit, tu vas sortir un album.
Voilà, j'aime chanter, j'aurais jamais l'audace par contre. Là, c'est une audace qui dépasse mon imagination. Mais un chant, juste neutre, même sans musique, comme ça, un chant. Je trouve ça vraiment, voilà, ça me touche.
Est-ce que t'as un petit rituel de musique, toi, quand tu crées, par exemple t'as tendance à mettre du son dans tes oreilles quand tu peins ?
Oui et non. Okay. Alors je sais qu'il y en a qui mettent des baffes, qui aiment mettre du son fort et tout ça. Moi, en général, et on me l'a dit il n'y a pas longtemps encore, « Ah, tu mets rien, seul avec tes pensées ?» Et oui, parce qu'en fait, c'est comme des gens qui cherchent leur route. Gad Elmaleh, il avait fait rire tout le monde avec ça en disant « Il baisse le son de la radio pour regarder où il va. » Parce que c'est une interaction, en fait, qui peut être bénéfique pour certains. Moi, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit. Parce que je suis concentré sur quelque chose. Par exemple, si quelqu'un me parle en même temps, enfin... ça dépend. Des fois, j'aime être seul avec mes pensées, comme m'a dit cette personne-là.
Il y a vraiment un mouvement introspectif, en fait, quand tu crées. Est-ce que tu penses à ce que tu fais ou est-ce que finalement tu refais un peu le monde ou...
Tout dépend de ce que je crée. Ouais. Si je dois refaire une image qui est sur mon téléphone, disons que j'ai ce stress-là de réussir et je pense à rien d'autre. Alors que si je crée pour moi, pour m'amuser, comme j'ai fait Frida, et en général, quand je crée ce que j'aime, ça sort beaucoup mieux.
Forcément.
Bien, là, voilà, on s'invente des choses, on fait perrette, on part dans tous les sens. Et souvent, on associe une idée à la peinture qu'on est en train de faire. Ce qui est drôle, c'est que je regarde un endroit de la peinture que je peignais à tel moment, et je me souviens de ce que je pensais à ce moment-là.
Oh, c'est fou, ça.
Ouais,
incroyable.
Des pensées inutiles encore, qui prennent des octets dans mon esprit pour rien, mais voilà.
T'arrives pas à faire le tri encore.
Voilà, c'est ça. Non, sinon, j'écoute des choses plutôt douces. Des choses qui sont pas... voilà, quand on réfléchit trop, il faut quelque chose de doux.
Ouais, d'atmosphérique. C'est ça que j'aurais dû te préparer comme playlist. Si tu devais être... si tu pouvais ou si... Ouais, si tu étais une œuvre d'art célèbre.
La nuit étoilée de Van Gogh.
Ah,
c'est
génial.
Mon tableau préféré.
Ouais.
Parce que la poésie de Van Gogh, encore une fois, les gens vont dire il est relou avec son Van Gogh, mais si on s'amuse à lire les lettres qu'il écrivait à son frère, on se rendra compte qu'il était un plus grand écrivain que peintre, presque.
Ah bon ?
Il a des phrases tellement belles, tellement poétiques, tellement profondes, que ça résonne vraiment. Et quand on regarde à travers ce prisme-là, la nuit étoilée, à travers toutes ces connaissances sur Van Gogh et sa vie, c'est pas juste une peinture, on réalise un tas de choses, vraiment.
Okay.
Il faut faire ce travail-là de recherche.
Tu l'as déjà vu, ce tableau ?
Alors, je ne l'ai pas vu en vrai, je n'ai pas eu cette chance. J'ai trop d'enfants et pas assez de temps, malheureusement.
J'ai trop d'enfants.
J'ai pas eu la chance de partir seul à l'aventure.
On vous embrasse. Justement, tes enfants, est-ce que c'est quelque chose que tu leur transmets, ta passion pour l'art ? Est-ce qu'ils s'intéressent à ça ?
Alors, nul n'est prophète en son
pays.
C'est
vrai.
Mes enfants ne sont pas du tout attirés. J'en avais un qui était très fort. Qui est pareil, qui a plein de capacités non exploitées, comme on me disait quand j'étais jeune. Il est très fort en peinture et très fort dans plein d'autres choses. Donc le temps qu'il trouve sa voie, c'est un patrimoine qu'on garde en nous et qu'on peut faire ressurgir des années plus tard. Bon, je pense qu'ils aiment ce que je fais, mais ce n'est pas non plus des très grands fans de ce que je fais. Quoi.
Ok. Mais par contre, tu donnes des cours au sein de la Maison de la Culture, non ?
L'année dernière,
plus cette année.
C'est plus d'actualité parce que j'ai beaucoup trop de projets.
Ouais.
Enfin, pas des projets, mais parce qu'on me sollicite toujours pour peindre. Donc là, en ce moment, je suis sur l'Animal 2, sans faire de grande pub, mais ils sont en train d'ouvrir un énorme bar à Chavelot, et du coup ça me demande 2-3 mois de réalisation.
Ouais.
C'est des fresques gigantesques et j'ai plus beaucoup de temps pour l'enseignement, ce qui était une activité que j'adorais vraiment. Avoir des enfants, transmettre, c'est magnifique. Hein.
Tu y reviendras peut-être.
Alors je vais faire des petits stages, c'est ce que j'avais dit sur mon Instagram, ceux qui étaient motivés. Je vais organiser des petits stages avec mon ami Cover One.
Ah, qu'on embrasse.
Qu'on embrasse, Seb Chérier, qui m'a tout appris dans le street art.
Ouais.
Et avec lui, on a le projet d'amener des gamins sous des ponts, vraiment sur le terrain, quoi, pour leur faire goûter un petit peu à cette adrénaline-là.
Le vrai street art, quoi.
Le vrai.
C'est lui qui nous a peint ce RGM-là, juste à côté, pour ceux qui veulent le voir. Ben, n'hésitez pas, 8 places de l'Hôtel de Ville, la porte est ouverte. Pendant qu'on discutait, ça m'a popé. J'ai envie de te faire écouter un truc un petit peu atmosphérique. J'espère que t'aimes les cordes. Mais en fait, si j'avais vraiment eu le temps de construire cette émission autrement, j'aurais écrit quelques mots sur ce son-là. Je ne sais pas pourquoi, tu vas me dire si ça t'inspire ou non. Répétitif, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait saisi à la première écoute.
Ouais, et ça me fait penser aux musiques de films qui sont construites pour toucher à l'âme.
Ouais,
Profondément, là, c'est aérien, c'est le genre de choses que je peux mettre pour me sentir vibrer.
La prochaine fois que tu viens, je te ferai une autre playlist maintenant que j'ai saisi un petit peu ton univers. Cette émission passe à toute vitesse quand deux esprits complètement libres penseurs se rencontrent, ça donne ça. Il me semble que là, tu as une actualité d'exposition.
Pour voir ce que je fais artistiquement, j'expose dans plusieurs endroits. À Audi, donc le garage Audi d'Épinal.
Okay.
J'expose à la crêperie de Gérardmer.
Okay.
Donc ce que je fais sur toile, hein, puisque de base je fais sur les murs, mais je fais aussi sur toile. J'ai reproduit la Frida justement que j'avais faite sur le mur.
Trop bien.
Reproduit à l'identique sur cadre. Une Frida qui est mienne, bien sûr. Et voilà, c'est pas mon corps de métier de peindre des toiles. C'est quelque chose que je fais par plaisir et que je vends et que je suis très mauvais pour vendre d'ailleurs. Je suis pas un très bon commercial, donc voilà.
Aujourd'hui en France, le street art est utilisé pour lutter contre la fracture territoriale. C'est le grand terme qui vient de sortir. On voit des parcours de fresques monumentales fleurir, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites agglomérations, voire les villages. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. On utilise la peinture pour ralentir le stress urbain et pour recréer du lien là où le béton était devenu froid. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle?
Ça me parle, mais je pense pas que ça soit un phénomène nouveau, puisque dans le temps, on avait des trompe-l'œil qui étaient magnifiques.
C'est vrai, ça.
Il y avait des artistes qui étaient très forts, qui reproduisaient des façades entières avec des fenêtres, des volets et tout ça. C'est un art qui s'est un peu, un fresquiste qui s'est un peu perdu. À l'époque, il n'y avait pas un pignon sans une fresque. Ou alors, on avait les grandes devantures où on écrivait le nom du commerce. On voit encore bar de un tel ou tramway, ou des choses comme ça, qu'on écrivait sur les maisons, et on ne le voit plus, et je trouve que c'est triste. L'art urbain moderne ne me plaît pas.
D'accord.
C'est futuriste, et puis c'est surtout dénué de tout. On prend juste d'où je suis, là, par la fenêtre, je vois un lampadaire, alors c'est deux tuyaux qui sont peints. Alors qu'un lampadaire de 1800, il était travaillé, il y avait des formes, il y avait une identité sur chaque chose. On prenait une clanche de porte, une poignée de porte, elle était ouvragée, elle était magnifique. jusqu'aux gouttières. Vous prenez des gouttières, les sorties de gouttières avec une tête de lion. Aujourd'hui, vous avez c'est une gouttière lambda. On se casse plus la tête à faire de l'art. L'art est mis de côté. Mmh. Donc que ça revienne sur le premier plan, par exemple, pour faire des façades, je suis pour.
Ouais.
Moi, je suis pour un art... Je suis un peu nostalgique des époques d'avant. Hein. Mmh. Je suis né à la mauvaise époque. Et je trouve que l'art d'avant était plus poétique, plus beau et présent partout. Aujourd'hui, on en est cruellement dénué, malheureusement. Mmh.
Tu l'as vu, la grande fresque un de la Tour, là, à Épinal ?
Je l'ai vu.
Tu l'as aimé, celui-là ?
Alors, j'ai aimé la réalisation. Je ne suis pas forcément, pour être très franc, je ne suis pas très, très fan de ce tableau-là,
oui.
Bien qu'il m'inspire beaucoup de choses, en étant très franc.
Oui.
Magnifiquement réalisé, et sa place, elle est très bien mise là.
Oui.
Après, je le trouve un petit peu triste, malgré que ce soit un très grand artiste, et ainsi de suite. Mais oui, je trouve que ça participe à mettre de la culture gratuite, parce qu'on oublie que la culture se paye et les gens n'ont pas forcément l'argent. Ils ne connaissent pas les prix de l'art. Un tableau, c'est très vite 1000 euros pour quelqu'un d'un tout petit peu connu. C'est pas tout le monde qui peut accrocher de l'art au mur.
Mmh.
Et du coup, l'art gratuit se raréfie. Il faut payer un musée, il faut payer... Ça veut dire que c'est réservé à une certaine tranche de la population qui ont les moyens. Et les autres peuvent le regarder à travers un écran. Quoi. Donc je trouve ça bien, moi, de mettre un énorme tableau comme ça sur la préfecture. C'était très beau.
Mmh. Bah oui, c'est vrai que l'art, c'est très élitiste. Hein.
Exactement. Hein.
Et est-ce que c'est plutôt la gratuité ou le fait que l'œuvre appartient vraiment à celui qui passe devant chaque matin ?
Un peu des deux, je dirais. J'aime le côté gratuit du street art pour sa disponibilité et ne faire aucune différence entre un riche et un pauvre.
Ouais.
Et j'aime aussi le fait qu'une personne s'empare d'une peinture et fasse de cette peinture sienne parce qu'elle le touche. On peut passer devant des choses qui ne nous inspirent pas. On est tous différents, on a des goûts différents.
Oui.
Mais il y a des peintures, quand on les voit, elles nous parlent, on se sent bien. Il y a quelque chose qui résonne en nous. Hein, c'est propre à l'humain.
Et puis ce qui est beau dans la peinture, dans l'art en général, c'est que... On le regarde avec notre propre spectre, en fait. Ça va toucher l'endroit en nous qui a besoin de l'être. Et c'est ça qui est beau.
Et on l'interprète différemment.
Tout à fait. Tu étais déjà venu dans nos studios, du coup, il y a quelques années, hein, pour parler de ton livre. Si Laurie d'aujourd'hui croisait celui d'il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je lui dirais ce que je lui dirais, même dans 10 ans. Calme-toi, arrête de stresser et ne fais pas attention aux autres. Parce que c'est vrai que j'ai été blessé par... moi qui ne connaissais pas les réseaux, bien sûr.
Ouais.
Je me suis pris sur le tard pour créer un Facebook et un Instagram. Ouais. Je l'ai assez dit. J'ai pas pris en compte le fait que des gens ne puissent pas aimer parce que moi, j'aimais. Et ça, c'est une belle leçon pour moi aussi. On est tous différents. Il faut accepter les critiques tant qu'elles ne sont pas dirigées par méchanceté. C'est-à-dire que j'ai été impacté en étant vraiment sensible, peut-être plus sensible que la moyenne, j'ai été impacté fortement par la critique.
Ouais.
Alors, bien sûr, je me mets en danger en faisant ces grandes fresques. C'est aussi ma faute. Mais je dirais à ce Laurie-là, ne t'offusque pas de ce qu'on dira, continue ta route. Et puis voilà, ne regarde pas ni à gauche ni à droite. De toute manière, tout le monde te critiquera un jour ou l'autre pour X et X raisons. Il n'y a personne qui fait l'unanimité entièrement. Donc voilà.
Bon, c'est même pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Mais c'est vrai que quand on commence à être visible sur les réseaux sociaux, ben voilà, ça amène son lot de choses merveilleuses et puis les autres auxquelles on peut choisir de donner du sens ou non. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as des projets en cours ? Enfin, oui, hein, la websérie, etc. Tout ce dont tu nous as parlé. Est-ce que tu as une petite exclue là, à nous donner ? Quelque chose dont tu n'aurais pas encore parlé ?
Alors, je ne vais pas avoir un cinquième enfant, ça c'est sûr. J'ai dit que j'arrêtais à 4.
On ne sait jamais.
J'attendais
ma
fille, j'ai eu ma fille. Une exclue, en fait, je ne la connais pas encore moi-même. Je connais mes forces, je sais de quoi je suis capable. Je regarde, puis il y a des moments dans la vie, c'est comme des fleurs, où ça éclot au bon moment. Et c'est ce moment-là qu'il faut saisir. Il ne faut pas le laisser passer, un train qui passe. Là, j'ai été dans la peinture. La peinture, progressivement, je vais m'en détacher, puisque j'ai fait mon tour. C'était une belle aventure. Mais j'ai 42 ans, et le temps passe vite. Et si je veux vraiment goûter à toutes ces choses-là, il faut que j'avance. Donc la web-série, pour moi, c'est un pas. Mais encore une fois, j'étais parti sur le théâtre. Je finis en web-série. Peut-être que je vais. En fait, c'est au gré des rencontres.
Peut-être que ça va être un long métrage.
Exactement. C'est une rencontre qui peut tout changer. On me dit pourquoi tu ferais pas ça ? Ou alors t'es pas capable de faire ça ? Et je me dirais bien sûr que je peux. Mm. Et on parlait de avant ça, j'étais en lien avec quelqu'un pour qu'il m'apprenne la cuisine. Parce que pour moi, c'est une forme d'art.
Hein.
C'est
bien sûr.
C'est de l'art visuel, de l'art gustatif. Je veux dire, c'était pour moi, c'était la consécration dans le sens où ça réunit deux formes d'art. Donc c'était cohérent. Et finalement, non, j'ai pris une route différente. Donc, quand j'aurai l'exclu, je reviendrai.
Allez, tu reviendras. L'art et les sens, en plus. Hein. J'ai l'impression que tu es un petit peu un magicien du sens, tu vois. Tu as envie de donner du sens et de toucher les sens, les cinq sens.
Et ne pas le faire seul. Ouais. C'est-à-dire que je pourrais faire mes petits dessins pour moi tout seul, mais je suis quelqu'un qui est dans le partage. Ouais. C'est pour ça que je suis un très mauvais commercial. Je suis dans le partage. Alors, sans fausse modestie, encore une fois, on connaît ses forces et ses faiblesses. Mais j'aime partager, j'aime que les gens me disent « Ah, j'aime bien ce que vous faites », même s'ils n'aiment pas, qu'ils me le disent, mais qu'on partage. Mmh. Pour moi, c'est essentiel de partager avec les gens.
Laurie, on te retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tu l'as dit tout à l'heure.
Alors, je suis parti une paire de fois,
ouais.
Au gré de mes pseudo-crises, hein, puisque c'est ce que je disais, des fois la pression okay. est... Alors, on n'est pas une star ni quoi que ce soit. Je ne sais pas comment font les vraies stars.
Ouais.
Moi, je suis quelqu'un de pudique et quand la pression est trop grande, je m'éclipse un temps. Donc, ceux qui me connaissent savent qu'il se peut que je raye mon Instagram, je le désactive pendant 6 mois et puis que je revienne toujours. Donc, pour l'instant, il est en ligne. J'ai un Instagram et un Facebook qui sont en ligne, donc on peut m'écrire dessus sans problème.
Super, et regardez ce que tu fais aussi.
Voilà.
Et ça, c'est chouette. Merci beaucoup d'être venu me rejoindre dans L'Odeur du Son. C'était une super émission.
Merci infiniment de m'avoir invité.
Mais avec grand plaisir. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ?
Au-delà de la réussite, de m'amuser.
Allez, de t'amuser, c'est bien ça. Auditeur, c'est comme à chaque fois, tu prends bien soin de toi et tu prends soin des autres. Je vous laisse avec un autre disque chouchou. Je l'aime tellement celui-là que ça pourrait devenir mon nouveau générique, on ne sait jamais. Merci Laurie, à bientôt.
Merci, au revoir.
Spending all my time just thinking about you. Paying days away just thinking about you. Oh.
Thank you.